Bonsoir et merci de suivre Radio Capi ce vendredi 22 novembre. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la promulgation le week-end dernier par le chef de l'État de l'ordonnance portant création du Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Comme deuxième sujet de notre émission, nous parlerons de la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition dénommée Sauvons la RDC. Cette plateforme est créée par un groupe d'opposants dont Vital Kamerhe et Martin Fayulu. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadindanga, il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir chers confrères, bonsoir auditeurs.
Nous sommes également avec Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Samuel, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous sommes également avec Gaston Mouchid, il est directeur général de Radio Télévision Manika, émettant depuis Kolwezi au Katanga. Bonsoir Gaston Mouchid.
Bonsoir à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission. La promulgation le week-end dernier par le chef de l'État de l'ordonnance portant création du Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales et la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition dénommée Sauvons la RDC figure parmi les sujets ayant occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'ordonnance du chef de l'État portant création du Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Le journal L'Avenir annonce qu'à la suite des concertations nationales, Joseph Kabila nomme Kengo et Minaku au comité de suivi. Et d'un autre côté, Forum des As signe gouvernement de scénario sous la table de Kabila. À la recherche d'un savant dosage entre la politique et la technicité, rapporte le tabloïd, le chef de l'État sur le point de trancher sur le profil du Premier ministre. La mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition dénommée Sauvons la RDC est un autre sujet qui a fait l'actualité pendant la semaine. On peut lire sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, Vital Kamerhe rassemble l'opposition dans la coalition Sauvons la RDC. Pour ses membres de l'opposition politique congolaise, cette union sacrée de l'opposition aura pour but de faire le gendarme du processus de démocratisation en RDC. À la une également de l'actualité congolaise, la révocation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le bilan des 100 jours de Martin Kobler, nouveau patron de la MONUSCO, et la proposition de loi fixant les règles relatives à la liberté des réunions et les mesures d'application de la liberté des manifestations sous examen à l'Assemblée nationale.
Merci Kéline Kouté. Joël Kadindanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été marquée aussi par l'Assemblée nationale où nous avons eu la proposition de loi fixant les règles relatives à la liberté des réunions et des mesures d'application de la liberté des manifestations publiques. Selon son auteur, Délice Sanga, ce texte veut donner des garanties aux administrés pour que des réunions et manifestations publiques se passent dans des conditions fixées par la Constitution. Comment est-ce que vous analysez cette proposition de loi?
Bon, je crois qu'il y a un effort dans le chef des parlementaires de circonscrire le cadre des réunions publiques dans notre pays, mais je crois que c'est une bonne chose d'une part, mais d'autre part, j'ai peur que certaines lois ne soient établies, ne soient élaborées pour restreindre encore davantage l'espace de liberté dont jouit la population congolaise. Parce qu'il faut reconnaître que la Constitution avait déjà fixé les modalités des réunions publiques qui ne pouvaient être tenues que sur base d'une information à l'autorité publique. Mais vous allez vous rendre compte que toutes les réunions ou tous les rassemblements populaires qui ont été demandés à certaines autorités ont été en tout cas annulés comme si cela devrait être soumis au quitus, n'est-ce pas, de l'autorité. Et là, nous sommes en train de faire un virage, en tout cas vers la Deuxième République où certaines réunions avaient été interdites.
Oui, Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision émettant depuis Kinshasa. L'autre sujet largement commenté cette semaine, c'est la révocation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Bonaventure Tshelo Lotshima. Il lui reprochait des manquements graves. Comment est-ce que vous analysez cette décision au moment où l'actuel gouvernement est réputé démissionnaire?
Bon, moi je trouve que c'est une bonne décision qui a été prise par le chef de l'État, et étant donné qu'il y a eu des choses qui ont été reprochées au ministre révoqué, le ministre des Sures. On parle de la spoliation de l'espace de l'Université pédagogique nationale. On parle également du fait qu'il a antidaté certains documents, notamment dans la mise en place de certains comités de gestion des universités du pays. Alors, pendant que ce gouvernement était réputé démissionnaire par rapport au fait qu'on annonçait un gouvernement de cohésion nationale, lui est révoqué. Il sort par la petite porte. Je pense que c'est une décision à saluer de la part du chef de l'État. C'est des choses qu'on cherche, parce que lorsqu'il y a des ministres qui se comportent de cette manière-là, il faudrait qu'ils soient sanctionnés, mais il faut une sanction aussi judiciaire. Il ne faudra pas se limiter seulement à la sanction politique, il faut aussi une sanction judiciaire. Il faudra aller voir tous les gouvernements, ce qui se passe au gouvernement. Il y a les ministres des Transports, Justin Kalumba, qui a fait perdre à la République beaucoup d'argent en ce qui concerne l'acquisition des 250 bus à donner à ceux qui ont des véhicules dans les transports en commun, 5 millions d'écart entre celui qui était le moins disant, celui qui avait proposé moins cher son bus, et pour les mêmes bus, il a opté pour un bus qui coûterait 63 000 dollars américains. Je pense que c'est des choses que les chefs de l'État doivent voir de près pour sanctionner de tels ministres. Il y a aussi Martin Kobler qui a fait 100 jours, je pense que ça fait aussi partie de l'actualité. Je pense qu'il faut saluer l'action qui est menée par le nouveau chef de la MONUSCO, qui est venu 100 jours après. Il y a eu des résultats dans l'Est. 100 jours après, l'espace politique congolais est en train de se comporter de manière un peu assez responsable. Je pense qu'il faut saluer l'action de l'Allemand.
Jolo Kalindanga, au-delà de ce que Ambroise a dit, y a-t-il d'autres sujets d'actualité au courant de cette semaine que vous pouvez peut-être dire un petit mot?
Non, je voudrais par contre revenir sur la révocation du ministre Tshelo. Je crois que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, c'est un énoncé du droit. Comment pouvez-vous dire à une épouse, vous annoncez le divorce, vous allez partir, et vous accordez une longue durée dans la maison à cette femme? Qu'elle reste dans votre propre maison. Elle peut tout se permettre. Et lorsqu'elle se permet tout, vous la renvoyez alors que vous lui avez déjà annoncé son départ. Et non seulement que vous vous êtes arrêté à annoncer le départ, le lendemain, vous prenez un peu des mesures qui sont conservatoires, qui ont pratiquement paralysé le fonctionnement normal de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a beaucoup de ministres qui devront être poursuivis, notamment le cas dont mon confrère venait tantôt de parler, du ministre Kalumba, vraiment qui privilégie les étrangers par rapport aux nationaux, je crois. Ce sont des cas qu'il faut améliorer.
Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolwezi au Katanga. Quel bilan vous faites des 100 jours de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, à la tête de la MONUSCO?
Oui, peut-être avant de parler de lui, mais je vais parler de l'actualité qui défraye la chronique dans cette ville de Kolwezi, où avant-hier on a déploré mort de deux personnes dans un éboulement qui s'est produit dans une carrière de Biwaya, et trois autres personnes ont été grièvement blessées parce qu'il y a eu encore éboulement dans une concession appartenant à une entreprise privée d'exploitation de cuivre et de cobalt, KCC, et des creusers en mal de positionnement parce que tous les carrés miniers qui ont été attribués aux creusers artisanaux ont été redistribués aux concessionnaires privés, aux industriels. Ça fait que les creusers sont en train d'aller à gauche et à droite en cherchant le pain quotidien, et de plus en plus on déplore des morts. Autre actualité, c'est la métamorphose de Kolwezi, hein, avec la construction du plus grand pont de la République démocratique du Congo. Un pont qui est à 710 mètres qui va lier Kolwezi à Likasi. C'est un pont qui est jeté sous la rivière Lualaba, qui est financé par les gouvernements provinciaux avec l'argent de péage, le gouvernement de Moïse Katumbi. Donc c'est un pont très beau à voir et tout le monde en parle, hein, on attend juste son inauguration. Par rapport aux 100 jours de Martin Kobler, nous disons qu'il est quand même arrivé à une bonne période où les Nations Unies ou l'ONU a changé le mandat de la MONUSCO en RDC, parce que depuis ses prédécesseurs, on peut dire qu'ils n'ont pas eu la chance, parce que les éléments de la MONUSCO étaient considérés comme des chiens sans dents qui regardaient les histoires se passer. Ça fait plusieurs années que la MONUSCO, hier la MONU qui était en RDC, mais c'est cette fois-ci seulement que la MONUSCO fait preuve d'un peu de d'attaque, et ça donne de bons résultats. Ça signifie que lui, dans ces 100 jours, on a chassé les M23, et donc ça peut entrer dans son bilan. Donc on peut dire aussi qu'il est arrivé à bon moment.
Merci beaucoup Gaston Mouchid, mais heureusement, je vous ai vu instamment demander la parole. Vous avez quelque chose à ajouter?
Justement, c'est en rapport avec un autre sujet d'actualité qui concerne l'opération Likofi, la traque contre les colonnes. Je pense que au niveau de la population, il y a des échos qui sont favorables par rapport à l'opération de la police. Les colonnes ont fait du mal tellement à la population que la mort devient la sentence qui est applaudie par la population, mais la mort de quelqu'un n'est pas souhaitée. Même Dieu, quand il prévient de son jugement, il intervient toujours, il juge et il frappe. Et les Kulunas ont été prévenus depuis plusieurs fois, on leur a demandé de laisser, mais ils n'ont pas pu. Et cette fois-ci, l'opération Likofi intervient. Je pense qu'il faut donner à la population la paix dont elle a besoin, et que cette criminalité cesse finalement au pays. On n'en a pas besoin.
Oui, sans transition, nous passons à notre premier sujet de ce soir. Le chef de l'État a procédé samedi dernier à la création du Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales. Créé pour une durée d'une année renouvelable, cette structure est placée sous l'autorité du Présidium ayant dirigé les concertations nationales. Ce comité est composé des deux organes, à savoir la plénière et le Présidium. Quelles sont les missions assignées au Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales? Les réponses avec vous, Guy Maté.
Outre la mission d'évaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales et d'assurer le suivi de l'application des réformes issues de ces recommandations, l'ordonnance portant création de ces comités lui confère également la mission d'organiser une fois l'an un forum sur la cohésion nationale. Ceci afin d'examiner les conflits de toute nature opposant les Congolaises et Congolais et de recommander au président de la République les actions spécifiques à mener en vue d'accélérer la mise en œuvre des réformes susvisées et de pacifier, selon l'ordonnance, les cœurs et les esprits. Le Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, CNSRCN en sigle, se réunit en session ordinaire. Il se réunit aussi en session extraordinaire en cas de besoin. Et à l'issue de chaque réunion, un compte rendu est réservé à la nation. De même, un rapport général des travaux est remis au président de la République à la fin de chaque session. Les CNSRCN disposent d'un budget de fonctionnement dont la gestion est assurée par le Présidium.
Joël Kadentanga, quelle lecture vous faites de la création du Comité national de suivi des concertations nationales?
Bon, je crois que c'est une bonne chose qui démontre de la volonté du chef de l'État à concrétiser, n'est-ce pas, toutes les recommandations qui ont été arrêtées au niveau de concertation nationale, devant avoir pour finalité la cohésion nationale. Je crois qu'il y a lieu de saluer cette détermination du chef de l'État qui tient coûte que coûte à obtenir vraiment cette cohésion nationale. Nous avons vraiment salué cela parce qu'il y a eu plusieurs réunions dans ce pays, il y a eu plusieurs forums, il y a eu plusieurs conférences, mais dont les conclusions ont été jetées pratiquement aux oubliettes, elles ont été portées au calendrier grec. Mettre en place une structure comme celle-là, comme cela a été déjà décidé par lui dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies au Congrès dernièrement, je crois que c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Mais là où il faudrait éviter de tomber, c'est lorsqu'il faut considérer cela comme une manière de remercier ceux qui ont servi à la cause du pouvoir, dans l'obtention, n'est-ce pas, de la prorogation du mandat de ces institutions en cours. Et cela, il ne faudrait pas que ce soit une récompense, parce que lorsque c'est une récompense, ce sont des gens qui ne se sentiront pas redevables ni au chef de l'État, ni à la population congolaise. Et ils pourraient faire tout ce qu'ils peuvent se permettre dans le but tout simplement de satisfaire.
Mais pourquoi tu ne te sentirais pas redevable au chef de l'État ni à la population?
Bon, peut-être, je crois que je dois rectifier. Ils ne se sentiront pas redevables à la population et ils se sentiront beaucoup plus en devoir vis-à-vis de la personne qui les a désignés à ces postes. C'est là où il y a un danger. Il y a un danger que cela ne puisse constituer une manière de récompenser. Et là où aussi le bât blesse, la cohésion nationale semble une affaire de Kinshasa. Et même lorsque vous avez vu, on parle du gouvernement de cohésion nationale, du gouvernement d'union nationale, cela ne concerne que le gouvernement national. Et c'est comme si, dans les gouvernements provinciaux, il n'y a aucun problème qui se pose. Et on a laissé se proroger, bien que cela, par rapport à la loi, c'est légal, les mandats illégitimes des assemblées provinciales, le mandat illégitime, n'est-ce pas, du Sénat, au-delà de la confiance qui leur avait été accordée par la population. Et cela, c'est vraiment un risque. C'est là que, en tant qu'analyste politique, en tant que chroniqueur politique, on voit, on a peur du lendemain qui pourrait se dessiner autrement avec les actuelles institutions qui pourraient aussi se pérenniser au pouvoir, que se référant toujours à la légalité dont ils pourraient jouir et qu'ils ne pourraient quitter du pouvoir que lorsqu'il y aura des nouvelles institutions nouvellement élues ou établies.
Oui, Ambroise Mamba, dans l'opinion, on se demande pourquoi ne pas voir confier le suivi des recommandations de ces concertations nationales aux institutions légalement reconnues comme par exemple le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais on accepte plutôt de mettre en place une structure qui se présente comme un doublon de ces institutions. Comment est-ce que vous analysez cela?
Bon, moi je comprends tout simplement que le chef de l'État a voulu qu'il y ait un mécanisme de contrôle par rapport à l'action du gouvernement, mais ici c'est un aveu d'échec pour le Parlement congolais qui n'a pas su contrôler l'action de l'exécutif, et le chef de l'État veut dire à la population que parce que votre Parlement a échoué, je vous donne une autre structure qu'on a institutionnalisée cette fois-ci en comité des suivis, pour qu'on fasse les suivis justement des recommandations de concertation nationale. C'est là que je me pose trois questions. Quel est le rapport qui existe entre ce comité de suivi et le chef de l'État? Quel est son rapport avec le gouvernement et quel pourrait être son rapport avec le Parlement? On dit ici qu'il va tenir des forums annuels chaque année et ce sont des forums qui n'auront pas de pouvoir contraignant. Il n'y aura pas de pouvoir contraignant parce que dans les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État est lui-même redevable par rapport à la population. Est-ce que s'il n'applique pas ces mesures lui-même, est-ce que le comité de suivi va... Qu'est-ce qu'il va dire au chef de l'État? Quel est son pouvoir par rapport au chef de l'État lui-même, il n'applique pas l'une des mesures qui est de son ressort. Et quel est le pouvoir de ce comité vis-à-vis du Parlement qui n'appliquerait pas une mesure de son ressort? Quel est le pouvoir de ce comité vis-à-vis du gouvernement? Je pense qu'il y aura seulement des propositions. Et lorsqu'il y a des propositions qui sont faites et que les chiens aboient, la caravane passe, ce comité ne servirait à rien. Mais si le Parlement congolais peut sanctionner un ministre, un membre du gouvernement qui s'est compromis dans sa mission, et je pense qu'on n'aurait même pas besoin de ce comité de suivi des recommandations de concertation nationale. Et je pense que c'est peut-être une manière de donner seulement du travail aux gens, des gens qui sont partis à la recherche de la cohésion nationale. Mais comment rechercher la cohésion nationale? Il faut donner du travail aux gens dans les conseils économiques et sociaux, dans les comités nationaux de suivi des recommandations de concertation nationale. Comme ça, les gens seront occupés, ils vont avoir des salaires à la fin de chaque mois. Comme ça, ils vont laisser les institutions tranquilles.
Donc, si je vous comprends bien, la mise en place de ce comité de suivi, c'est un aveu d'échec des institutions en place.
Effectivement, c'est un aveu d'échec du Parlement congolais. Le chef de l'État a voulu dire à la population, votre Parlement n'a rien fait. Votre Parlement n'a pas sanctionné mon gouvernement. Je vous donne une autre structure qui s'appelle Comité national de suivi de recommandations de concertation nationale. Mais un comité qui n'a même pas un pouvoir contraignant vis-à-vis de ces institutions. C'est vraiment malheureux.
Gaston Mouchid, est-ce que ce Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales n'est pas une structure de plus? Gaston Mouchid, apparemment nous avons un petit problème du côté des lignes téléphoniques, le temps que la technique puisse s'activer. On va poursuivre cette émission. Joël Kadindanga, quel pourrait être alors l'avantage ou la conséquence que ce comité de suivi des recommandations des concertations nationales lorsqu'on sait que cela ressemble à un gouvernement bis, bien sûr?
Non, vous l'avez dit peut-être dans la question que vous posiez tantôt à notre confrère qui est à Kolwezi, qui n'est pas en ligne, lorsque vous disiez que si cela ne constitue pas une institution de plus, oui, une institution de plus, encore une institution budgétivore, peut-être pour rien, parce que toutes les recommandations qui ont été arrêtées lors des institutions, lors des concertations nationales, c'est en effet l'aveu d'échec du gouvernement en place, parce que cela relève, n'est-ce pas, des attributions régaliennes d'un État. Donc ce sont les missions normales, donc c'est les fonctionnements comportement normal. C'est comme, on dirait dans un foyer que l'homme doit aimer sa femme, l'homme doit pourvoir aux besoins de son foyer, que la femme doit pourvoir aux besoins. Et qu'on mette en place un comité de suivi de ces recommandations-là, révèle que il y a quelque chose de ça ne va pas dans ce foyer-là. Et effectivement, parce que qu'il s'agisse d'éradiquer l'insécurité qui était dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est le rôle qui revient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption, contre la concussion, contre ceci et cela, c'est vraiment les attributions, en tout cas, d'un pouvoir judiciaire bien établi. Qu'il s'agisse de tout ce qui a été dit, du contrôle de ceci et de cela, je crois que cela relève de responsabilités, des attributions régaliennes d'un État, et cela ne pouvait pas avoir une institution budgétivore, une institution de plus pour le contrôler tant que nous avons un appareil judiciaire qui devrait travailler, nous avons un Parlement qui devait jouer son rôle de contrôle, nous avons un pouvoir exécutif qui devait mettre en place, qui devait exécuter la vision du chef de l'État dans ce qu'il veut faire pour ce pays.
Joël Kadindanga, on revient à vous, on me signale que Gaston Mouchidé en ligne. Gaston Mouchidé, vous nous écoutez ?
Oui, je vous écoute très bien.
Ouais, la question que je vous posais tout à l'heure, quelle analyse vous faites de la mise en place d'abord de ce comité de suivi des concertations nationales?
Moi, je suis plutôt sceptique. Hein. Je me dis que c'est des doublons pour rien. Nous sommes dans un pays, comme venait de le dire à mon co-débatteur tout à l'heure, organisé, qui a une chambre haute, qui a une chambre basse, qui a un gouvernement, qui a des cours et tribunaux. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut pour que ces recommandations-là se retrouvent dans les institutions. Aujourd'hui, qu'on nomme un comité de suivi, avec à la tête Aubin Minaku et Kengo Andondo, qui sont déjà, eux, le président du Sénat et le président du Parlement, eux qui n'ont pas réussi à bien contrôler les gouvernements, parce que vous allez vous rendre compte que depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont jamais pris de mesures sur un membre du gouvernement. À chaque fois qu'ils interpellent, et quand on a donné l'argent, ils changent, ils les laissent tomber. Mais c'est à ces gens-là qu'on va confier la tâche de gérer un comité de suivi. Et moi, je me dis pourquoi leur donner encore de l'argent, parce qu'ils vont pas travailler gratuitement. On parle de budget de fonctionnement qui va être géré par les présidiums, pendant que ici au pays nous avons des fonctionnaires de l'État, nous avons des militaires eux-mêmes qui ont repris les territoires de Goma et l'Est, les policiers qui sont toujours sous-payés. Mais on va donner des sommes rocambolesques aux gens qui sont déjà suffisamment riches, qui n'ont pas fait preuve de bonne gouvernance. Moi, je crois que c'est des doublons pourris, hein. Les institutions pouvaient bien faire ce travail, et donc on n'a pas besoin d'un comité de suivi extraordinaire, parce que c'est seulement bouffé dans le budget de la République, alors qu'il y a énormément de gens qui travaillent et qui ont besoin d'être payés par l'argent produit par les Congolais.
Ambroise Mamba, alors quelles sont les chances que vous accordez à ce comité de suivi des concertations nationales?
Je ne pense pas que ce comité a de chances, parce qu'il n'a pas de pouvoir contraignant. Pas de pouvoir contraignant vis-à-vis du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils vont dire au chef de l'État si lui-même n'applique pas une des mesures de son ressort, qui relève exclusivement de sa compétence? Est-ce que ce comité national de suivi va interpeller le chef de l'État? Je ne pense pas. Est-ce que ce comité national de suivi va dire quoi à la justice congolaise? Va dire quoi au gouvernement congolais? Ce seraient seulement des observations et qui seront faites, comme on l'a toujours dit, même à l'ancien Parlement, on le disait, il y a telle chose qui n'est pas appliquée ainsi de suite. Je n'accorde pas assez de chance à ce comité national de suivi, mais je constate tout simplement qu'il s'agit pour les pouvoirs de Kinshasa. Vous savez, les concertations nationales se sont tenues dans un moment assez crucial de notre pays. Une controverse électorale qui est infinissable, interminable jusqu'aujourd'hui. Et alors, il fallait contenter une grande partie des opposants congolais en les donnant un peu du travail au sein du gouvernement, au sein du Conseil économique et social, au sein du comité des suivis des recommandations de concertation nationale. Comme ça, ils s'étaisent. Et la question des légitimités de pouvoir est oubliée. Et on va calmement jusqu'en 2016, voire peut-être à l'après 2016, parce qu'on parle d'un recensement, on parle des préalables, les élections qui devront commencer par les locales, ainsi de suite. De cette manière-là, on dit avoir trouvé ce qu'on appelle cohésion nationale, même si les gros poissons de l'opposition congolaise n'ont pas pu participer à ces travaux. Et c'est ce que je dis. Donc, on a voulu seulement donner du travail aux gens, on a voulu traduire dans ce qu'eux estiment que c'est ça, la cohésion nationale traduite en actes. Avoir un gouvernement de cohésion et avoir un comité national de suivi, mais qui n'a pas de chance de réussir, parce que sans pouvoir contraignant vis-à-vis des institutions légalement établies.
Joël Kadindanga, Ambroise Mamba n'accorde aucune chance à ce comité de suivi des concertations nationales. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Bon, pourquoi les chances que l'on peut accorder à cette nouvelle structure, à ce doublon, c'est par rapport à celui qui l'a mis en place. Donc, Mamba ne peut pas établir les choses par rapport à lui, par rapport à la population congolaise. Les choses, c'est par rapport aux attentes de celui qui a mis en place cette nouvelle institution. Et c'est par rapport à ça qu'il faut évaluer les chances. Si vous évaluez les chances par rapport à la population, par rapport à la réussite, je n'en vois pas. Si vous évaluez les chances par rapport aux autres institutions qui existent déjà, l'appareil judiciaire, le gouvernement et le parlement, je ne vois pas non plus de chances parce que ces comités de suivi de concertation nationale viendraient pratiquement empiéter, viendraient pratiquement créer un télescopage sur les attributions des autres institutions, notamment le gouvernement, les deux chambres du Parlement et les autres institutions qui existent déjà. Et c'est là où je me dis que ce télescopage ici pourrait être pourrait produire comme conséquence de chevauchement, d'empiétement sur les attributions des autres, et ça sera le conflit de compétences entre les institutions. Voilà un peu là où nous sommes en train de tendre, et ça sera encore des nouvelles causes de prochaines crises.
Gaston Mouchid, nous terminons ce sujet avec vous. Ambroise Mamba et Joel Kadi Ndanga n'accordent aucune chance à ce comité de suivi. Qu'en pensez-vous?
Je suis de cet avis, parce que nous avons ici des institutions qui pouvaient mettre en marche ces recommandations, qui pouvaient bien assurer le suivi, parce que ces recommandations sont catégorisées. Nous avons plusieurs ministères. Nous avons les cours et tribunaux, comme je l'ai dit. Nous avons le Parlement, nous avons toutes ces institutions qui pouvaient assurer le suivi de ces recommandations. Comme on l'a dit, nous avons un Parlement, des députés qui ont été élus, qui devaient assurer le suivi de recommandations, mais que on prenne un présidium constitué de deux présidents de deux chambres, je ne suis pas très sûr qu'il y ait des résultats qui changent, parce que comme l'a dit mes confrères, ils n'ont pas, eux, des forces contraignantes pour pouvoir serrer telle ou telle autre institution à faire ça ou ça. Quel pouvoir est-ce qu'ils ont pour pouvoir attaquer ou contraindre telle à faire ça ou à faire appliquer ceci? Je crois qu'ils sont là pour le plaisir de dire qu'on a un comité de suivi, mais les résultats, nous sommes vraiment sceptiques tous, comme ils l'ont dit, de voir les résultats découler de ces présidiums.
Oui, merci beaucoup Gaston Mouchid. Nous passons directement à notre second sujet de notre émission. Il est consacré à cette nouvelle plateforme de l'opposition dénommée Sauvons le Congo. Ce regroupement politique est créé par la Coalition pour le vrai dialogue, coordonnée par Vital Kamerhe, les forces acquises au changement dirigées par Martin Fayulu et une frange de la société civile. L'annonce et la sortie officielle de cette plateforme a eu lieu lundi dernier à Kinshasa. Pour Vital Kamerhe, l'un de ses initiateurs, Sauvons le Congo est une sorte d'union sacrée de l'opposition. Il a pour rôle de faire le gendarme du processus de la démocratisation en RDC. On écoute Vital Kamerhe qui retrace les objectifs de Sauvons le Congo. Il est au micro d'Innocent Olenga.
D'abord, c'est enlever tout obstacle, combattre tout ce qui peut empêcher la poursuite de la démocratisation amorcée le 28 novembre 2011. Nous allons tirer les leçons de ces mauvaises élections pour qu'ensemble, dans une sorte d'union sacrée, nous puissions projeter de bonnes élections. Deuxièmement, nous avons l'objectif de renforcer la paix, consolider la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Troisièmement, nous allons veiller à ce que la constitution de la République soit respectée. Nous l'avons dit et nous l'avons rappelé que nous devons absolument faire en sorte que le 19 décembre 2016 à minuit prenne fin le mandat du président en exercice actuellement pour que vive la démocratie dans notre pays. Enfin, nous nous battons et nous nous battrons contre les antivaleurs dans notre pays. Corruption, violation massive des droits de l'homme, instaurer un état de droit dans notre pays et la bonne gouvernance.
Mamba, comment est-ce que vous analysez cette nouvelle initiative de l'opposition? Et selon vous, qu'est-ce qui aurait motivé la création de cette nouvelle plateforme de l'opposition?
Moi, je comprends une chose. Ils ont fait seulement une lecture prévisionnelle des élections de 2016. Ils se sont rendus compte que ces élections n'auront pas lieu en 2016. Ils se sont peut-être rendus compte que le 19 décembre 2016 à minuit, comme Vital Kamerhe vient de le dire, il n'y aura pas un président nouvellement élu. Parce que Joseph Kabila et à son dernier mandat, les tout derniers, et c'est le deuxième et le dernier, et ils ont estimé par exemple que par rapport à ce qui a été dit aux concertations nationales, ils font un recensement, ils ont fait une lecture prévisionnelle. Ils se disent un recensement sérieux prendrait 3 ans. Et nous sommes en 2013, il faut qu'on prenne 3 ans pour un recensement. C'est que c'est pas sûr qu'il y ait élection en 2016. Ils se sont également dit que le problème du budget se pose pour ces élections-là. L'argent n'est pas disponible. Ils se sont dit également que non, également, il y a un préalable. Il faut commencer les élections par les provinciales jusqu'à la présidentielle. Alors là, ils sont arrivés à la conclusion que la présidentielle ne pourrait pas se tenir en 2016. Voilà leur inquiétude et ils ont dit, ils ont créé ce regroupement qu'ils appellent Sauvons les Congos. Et alors, est-ce qu'ils ont raison de le dire? Je pense qu'ils sont en démocratie. Ils ont fait les lectures prévisionnelles. Encore faudra-t-il qu'ils puissent avoir tort ou raison. Mais c'est des bonnes guerres en politique. Mais ils ont souligné un point qui est important là. Lorsqu'ils parlent par exemple des élections de 2011, ils doivent évaluer parce que l'opposition a été accusée d'aller aux élections de 2011 de manière dispersée. Cette fois-ci, ils vont peut-être tirer les conséquences de ce qui s'est passé en 2011 pour faire l'union prochainement. Et je pense qu'ils ont raison de pouvoir se mettre en place. Le plus important dans cela, vous voyez, il y a eu deux personnalités politiques qui s'est détestées, Vital Kamerhe et Martin Fayoulou, mais cette fois-ci qui ont accepté quand même de se mettre autour d'une table. Et c'est ce que peut-être les autres ont pu rechercher par rapport à la cohésion nationale. Mais s'il y a cette cohésion au niveau de l'opposition, je pense que ça pourrait faire une bonne chose pour le pays. Et lorsqu'ils appellent Sauvons les Congos, qu'on puisse sauver le Congo de quoi? Est-ce qu'il faut sauver le Congo des hommes ou il faut sauver le Congo des tares? Le plus important, il faut sauver le Congo des tares. Si les tares sont dans l'opposition, il faut sauver le Congo des tares. Si les tares sont dans la majorité, il faut sauver le pays des tares et non sauver le Congo des hommes parce que les hommes, bon, dans ce monde, il n'y en a pas.
Oui, Joël Tadindanga, on constate que l'opposition congolaise boitille un peu. Après la coalition pour le vrai dialogue lancée il y a peu par l'UNC de Vital Kamerhe, aujourd'hui nous avons une nouvelle plateforme qui voit le jour Sauvons le Congo, à côté desquelles se trouvent d'autres structures. On se demande si l'opposition congolaise est en perte de vitesse ou est à court d'initiative.
Oui, en fait, vous l'avez dit, mais je ne vais pas reprendre vos mots. Mais moi, je trouve qu'il s'agit tout simplement de la masturbation intellectuelle. Masturbation intellectuelle, s'il faut que j'en prenne ces mots ici à un confrère qui l'adore, qui le chérit, Harold Badibanga. Masturbation intellectuelle basée essentiellement sur les calculs politiciens pour avoir des postes dans un bref ou lointain délai. Ça veut dire rien d'objectif précis pour conquérir le pouvoir et l'exercer dans notre pays. Donc dans l'opposition, nous manquons ces hommes-là qui ont des laboratoires, qui ont des stratégies pour arriver à conquérir le pouvoir, pour arriver à talonner le pouvoir en place et le conquérir. Donc vous avez des gens qui s'asseyent, qui font des calculs. Vous avez et j'ai constaté que depuis que Vital Kamerhe, que j'apprécie beaucoup, a quitté le pouvoir, c'est pourquoi les transfuges de foi arrivent toujours à échouer. Vous verrez des gens qui changent de camp là souvent. Ils ne réussissent pas vraiment à avoir leurs deux pieds sur terre, leurs deux épaules, leur tête sur leurs deux épaules. Et c'est ce qui fait que donc c'est essentiellement basé sur des calculs politiciens. Mambala dit tantôt, mon frère Ambroise, lorsqu'il dit que les gens voient déjà la fin du mandat de Joseph Kabila, et ils voient qu'il n'y aura pas élection et en conséquence, il faudrait monter une structure qui va leur permettre de négocier en position de force avec le pouvoir. Étant donné qu'à côté, il y a un Tshisekedi qui boude tout, qui aussi ne réfléchit pas sur des stratégies ou des mécanismes pour conquérir le pouvoir. Alors, ils veulent un peu se constituer déjà en une bonne position pour, n'est-ce pas, négocier certains postes au pouvoir. C'est là où je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que l'opposition congolaise est en crise. Pas seulement l'opposition congolaise, mais on manque, en tout cas, cette classe politique-là des apôtres du peuple, des serviteurs du peuple, des gens qui viennent pour servir. Mais ce sont des gens qui mènent toute leur stratégie, leur laboratoire, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut négocier avec le pouvoir pour le conquérir, pour occuper des postes, et non pas pour conquérir le pouvoir, l'exercer de manière à accorder le bonheur à son peuple. C'est là où je me dis que la société congolaise est tellement malade, malade de sa classe politique, malade de ses responsables, et qu'il y a lieu qu'il y ait une rénovation, un renouvellement, n'est-ce pas, dans la classe politique congolaise pour espérer un bonheur, qu'il s'agisse du pouvoir ou de l'opposition.
Oui, Gaston Ochey, de cette plateforme politique dit vouloir mettre la pression sur le pouvoir en place et être une sorte d'union sacrée de l'opposition pour faire le gendarme du processus de la démocratisation. Mais on sait que les initiateurs de cette structure avaient boycotté les concertations nationales. Pensez-vous que cette structure puisse apporter quelque chose de bon dans le paysage politique actuel ou c'est une structure de trop?
D'abord, on désigne par opposition les partis ou les mouvements n'appartenant pas à la majorité parlementaire qui s'y opposent. Et l'opposition dans la démocratie constitue un contre-pouvoir. Elle permet d'éviter que la majorité, une fois parvenue au pouvoir, n'ait la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits et libertés. L'opposition représente aussi la possibilité d'une alternance politique. Enfin, l'opposition permet aussi de renouveler les personnels politiques. Mais aujourd'hui, si pour nous parler, pour faire respecter la Constitution, il faut créer une nouvelle plateforme politique d'opposition. Pour lutter contre les antivaleurs, il faut créer une plateforme. Pour lutter contre la corruption, violation massive des droits de l'homme, je crois peut-être que l'opposition elle-même ne sait pas ce qu'elle doit faire. Parce que c'est en fait le rôle, les contrepoids, c'est ça le rôle de l'opposition. Et quand on leur a demandé d'avoir un porte-parole, un seul, les acteurs de l'opposition se sont tirés à boulet rouge, ils ne se sont jamais mis d'accord. Aujourd'hui que Martin Fayoul et Vital Kamerhe peuvent se mettre sur une table, c'est tout simplement parce que ils veulent des intérêts rapides. Parce que s'ils voulaient les élections, ils attendent de les gagner et ils travaillent en faisant les contrepoids du pouvoir. Mais quand ils font beaucoup de bruit, il y a eu une réunion, ils ont dit qu'ils voulaient se réunir autour de l'opposition pour faire les vrais dialogues, alors qu'il y a eu des dialogues qui ont été convoqués. S'ils avaient de belles idées, de bonnes idées capables de faire avancer les choses, ils seraient venus avec les autres pour pouvoir donner ces idées-là. Ça a échoué d'abord leur première plateforme, et là ils essayent de tromper la vigilance, tromper la vigilance de la population en essayant de donner l'impression à la majorité qu'ils ont besoin, ils ont soif aussi du pouvoir. Donc là, l'instant d'après, on va les appeler pour dire, allez, vous nous donnez quelques membres, on va le mettre dans un nouveau gouvernement et on oubliera tout ça. Moi, je crois que cette distraction doit prendre fin. Parce que l'opposition doit savoir quel est son rôle. Si aujourd'hui, on n'a même pas une opposition, on a même parlé d'une frange de la société civile. Vous connaissez bien que moi, il y a combien de sociétés civiles dans ce pays? Si c'était une société civile sérieuse, pourquoi est-ce qu'il y a des fractions des sociétés civiles? S'il y a des partis d'opposition, pourquoi les partis d'opposition ne peuvent pas se mettre autour d'une table et aider les pays à se relever en essayant de contrebalancer ou à jouer leur rôle des contrepoids? Mais chacun y va de sa manière. Il y a, comme on l'a dit, Tshisekedi qui s'oppose à tout, il y a Vital Kamerhe et son groupe qui s'opposent aussi à tout. Entre-temps, ils essaient de nous donner l'impression que c'est eux qui seront les gendarmes de la démocratie. Comment est-ce qu'ils ont tel moyen pour que, si en 2016 il n'y a pas élection parce que on prétextera qu'il n'y a pas de budget pour pouvoir organiser ces élections. Est-ce que cette plateforme-là, Sauvons les Congos, a l'argent qu'il pourra donner pour qu'on organise ces élections-là? Je crois que c'est des bruits pour rien. C'est ce qu'on dit, faire des bruits avec sa bouche. Je crois qu'ils doivent chercher les pouvoirs autrement. Ils connaissent les adresses. Ils n'ont qu'à aller demander les pouvoirs officiellement que de commencer à troubler la population en essayant d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte.
Oui, Ambroise Mwamba, dans moins de 5 minutes, terminons cette émission. Je vais vous demander d'être un peu bref. Que faut-il faire pour assainir le paysage politique congolais et permettre à l'opposition d'être vraiment une sorte de gendarme du processus de la démocratisation?
Il faut renoncer à ces calculs politiciens. Vital Kamerhe, Martin Fayoulou et les autres doivent d'abord renoncer à leurs propres calculs politiciens. Vous savez, en 2011, si l'opposition a échoué, c'est parce que tout le monde préservait ses propres intérêts. Ils ont refusé de faire bloc pour trouver un candidat unique de l'opposition et ils ont échoué. Vital Kamerhe venait de le dire lui-même, nous voulons évaluer l'élection de 2011. Est-ce qu'il ne savait pas que quand on est divisé, on doit perdre? Il ne savait pas, il le savait. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est réuni aujourd'hui. Est-ce qu'il a raison de se réunir aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas pu participer aux concertations nationales et il trouve qu'il n'a plus du vent en poupe. C'est Léon Kengo qui lui a pratiquement volé la vedette et qui semble réorganiser l'opposition. Il s'est dit, niente, je reprends mon ami Fayoulou que je détestais auparavant, je le prends dans une friture dénommée Sauvons les Congos, ils se réunissent là. Est-ce qu'il a renoncé à ses intérêts politiciens? C'est là que j'ai dit qu'il doit revoir sa manière de faire la politique. Mais par rapport au fait qu'il faut respecter le cycle électoral, il peut avoir avoir raison quelque part qu'on respecte le cycle électoral. Vous vous rappellerez qu'autrefois on s'est posé la question, Joseph Kabila changera-t-il la constitution, oui ou non? C'est la question qui a défrayé la chronique dernièrement. Il y a eu même des théories, Évariste Bouchard qui a publié un livre pour permettre à la population de choisir entre l'inanition de la nation et la révision de la constitution. Et c'est dans toute cette peur-là, il y avait cette peur-là de voir si Joseph Kabila va changer la constitution. Et les concertations nationales se tiennent et finalement on tombe d'accord par rapport au respect de la constitution, mais ils se disent mais on va respecter la constitution, mais la manière dont les constatateurs ont décidé pour qu'il y ait d'abord recensement ainsi de suite, on risque de ne pas avoir les élections présidentielles en 2016. Voilà leur peur justement pour faire maintenant pression. J'ai dit tout simplement qu'ils font pression sur le pouvoir pour qu'on leur donne les élections présidentielles en 2016. Ils ont raison par rapport à cela, c'est des bonnes guerres en politique, mais encore il faudra-t-il qu'ils puissent avoir des bonnes élections et avec des moyens très bons donnés à la CENI pour qu'il y ait ces élections. Et c'est là pour assainir l'espace politique, il faudra que les gens renoncent à leurs calculs politiciens. Même pour la majorité présidentielle, il faudra que les principes démocratiques soient respectés. De cette manière-là, on va aller de l'avant. Mais sinon, si on se limite à faire des discours comme celui qui a été fait dernièrement par le chef de l'État, tellement applaudi par la population, et on annonce un gouvernement de cohésion nationale avec imminence, mais qui n'arrive toujours pas, on dirait que le chef de l'État lui-même est en difficulté de pouvoir prendre la décision qui est la sienne. Et donc là, j'ai dit qu'il faut renoncer à ces calculs politiciens pour l'intérêt général de la nation.
Oui, Joseph Kadindanga, je veux vous demander d'être bref et répondre à la même question que Ambroise Mamba. Que faut-il faire pour assainir le paysage politique congolais et permettre à l'opposition d'être vraiment une sorte de gendarme du processus de la démocratisation?
Donc, assainir l'espace politique congolais passe par la maîtrise des attributions et des rôles d'une opposition républicaine. Une opposition républicaine qui, au-delà de la critique, propose ce qu'elle aurait dû faire si c'était elle qui était au pouvoir. Et deuxièmement, je crois que Gaston a bien défini toutes ses attributions et les rôles. Ils n'ont qu'à suivre ou à resuivre, à télécharger cette émission pour revenir sur ce que Gaston Mouchid a dit. Il leur a donné comme leçon à partir de Colosi. Et il faudrait qu'ils puissent considérer plus le peuple au lieu de s'imposer dans les considérations populistes pour occuper un espace de choix dans les prochaines négociations qui s'annoncent face à l'incapacité ou au manque de volonté du pouvoir en place d'organiser les élections au bout de ce mandat. Je crois que si on peut considérer plus le peuple, ou si j'ai pu calquer ces mots d'un prédicateur politique de la RDC qui a toujours dit aimer le Congo et aimer les Congolais. Lorsqu'on arrivera au point d'aimer le Congo ou d'aimer les Congolais, vous savez, nous sommes dans un pays qui est déclaré le plus demandeur d'asile à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que l'on offre aux Congolais par rapport aux expatriés. Donc ce pays semble mieux, plus pour les expatriés que pour les Congolais. Et voilà, cela, qu'il s'agisse du pouvoir ou de l'opposition, je crois qu'il y a lieu que chacun maîtrise son rôle d'accorder les bonnes d'abord à ce peuple, aimer le Congo et aimer les Congolais.
Oui, Gaston Mouchid, nous terminons avec vous. Que faut-il faire alors pour assainir le paysage politique congolais et permettre à l'opposition d'être vraiment une sorte de gendarme du processus démocratique?
Je voudrais d'abord, comme l'a dit si bien mes confrères, que les opposants sachent leur rôle, leur but. Quand est-ce qu'on est opposant? Pourquoi on est opposant? Et quel est le rôle de l'opposition dans une démocratie? Parce que ce n'est qu'à cela que nous allons voir que l'opposition pourra jouer son rôle. Parce que déjà, au niveau de l'opposition, ils sont opposés à eux-mêmes. Comment voulez-vous que l'opposition serve de contrepoids au pouvoir pour permettre à la démocratie de s'asseoir? Les opposants doivent se mettre ensemble, et à ce moment-là, ils peuvent être efficaces. Et comprendre aussi que quand on est opposant, il faut accepter l'alternance. Ce n'est pas que tous les jours, tous ces opposants-là doivent avoir des places dans les institutions aujourd'hui. Si aujourd'hui ils n'en ont pas, demain, il faut qu'ils attendent pour pouvoir obtenir ces sièges-là dans les institutions. Parce que chez nous, dans l'opposition, tout le monde veut aller gouverner, tout le monde veut avoir une place dans les institutions, tout le monde veut travailler, et à ce moment-là, ça devient difficile. Nous avons un pays, grand soit-il, il n'y a de la place que pour un seul président de la République. Aujourd'hui, ça, c'est Joseph Kabila, demain, ça peut être Vital Kamerhe, s'il est patient et s'il fait une bonne politique. Mais si tous nous voulons être président au même moment, je crois que ça va être difficile pour l'opposition de jouer son rôle de contrepoids.
Je vous remercie et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle que je recevais Joël Kadindanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, émettant depuis Kinshasa. Et Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolozi au Katanga. La partie technique de cette émission est assurée par William Lungamba. Kelly Nkoutete à la réalisation et Samuel Kochak vous a présenté cette émission sous la supervision de Martin Seboujangoui. La rediffusion de cette émission c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.